Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas...
Aux arts vivants en Ile-de-France, sur Radio Campus Paris, je vois la tête catastrophée de notre ami Thomas Adam Garnin. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus de tout ça qui est mal géré et tout ça. Mais bon, il a raison. Il a raison. Licenciez-moi. Bon, ce soir...
C'est du vivant.
Mais Thomas, c'est navrant, on en a parlé, puis je me foire. Bon, alors, ce soir, nous recevrons pour l'interview l'auteur, comédien, professeur des écoles, Sébastien Bravard, hein, pour son seul en scène, Élémentaire, qu'il a écrit en s'inspirant de son expérience professorale. Alors, la pièce se joue depuis le 5 janvier et jusqu'au 30 mars. Hein, c'est au théâtre de Belleville. Et puis, évidemment, on a... toute une tripotée de chroniques, hein, comme d'habitude. On va vous parler de Piste. C'est une pièce écrite et mise en scène par Penda Diouf avec Nan Yadji Kagara, qui se joue jusqu'au 29 mars au Théâtre 13. Donc, c'est-à-dire dans le 13e arrondissement, hein, n'est-ce pas? On m'écrit même mes blagues. Ensuite, on parlera de Zonard. Donc ça, c'est de la danse contemporaine avec une chorégraphie d'Anne-Charlotte Zuner et interprétée par Anne-Charlotte Zuner elle-même en personne et Amandine Dussard au Théâtre de la Croisée des Chemins dans le 19e arrondissement et c'est jusqu'au 3 mai. Ensuite, nous parlerons de Golem, une pièce écrite par Amos Guitaï et Marie-Josée Sanselme. Mise en scène par Amos Guitaï et c'est au Théâtre de la Colline et c'est jusqu'au 3 avril. Et enfin, nous parlerons de Sur le chemin des glaces qui reprend le texte de Werner Herzog avec une mise en scène de Bruno Gesselin dans le cadre de la compagnie La Grande Mêlée. Donc les prochaines dates hors Île-de-France, ce sera au Tandem, la scène nationale Arras-Douai. Et ce sera le 25 et le 26 mars. Écoutez les gars, moi je vous laisse enchaîner avec la... Si vous voulez des petites musiques, mais on n'a rien eu le temps d'installer. Désolé l'invité. Donc commencez avec l'interview, Michel. Je suis absolument navré.
Bah, tout d'abord, bonsoir Sébastien Bravard. Je suis désolé de vous recevoir avec ma voix.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, je vais faire une petite introduction. Donc, Élémentaire, c'est un seul en scène que vous avez écrit. Donc, vous êtes un comédien qui est devenu parallèlement professeur des écoles. Donc, en homme de théâtre, vous y avez trouvé de la matière, des élèves, des collègues, une institution. Cette école primaire que nous fréquentons quasiment tous, dont le cadre est à peu de choses près, toujours le même. Il y a au moins une cour, une classe, des horaires, des récrés, etc. Cette école qui, somme toute, est un socle commun de nos premiers souvenirs et qui n'existait pas il y a ne serait-ce que 200 ans. Les enfants vivaient alors sûrement, dès leurs premières années, des choses très différentes. Et donc, c'est quel changement il y a eu depuis? L'école primaire est devenue un lieu incontournable, évident de l'enfance contemporaine. Et donc, on voudrait un peu savoir, parce qu'il y a un peu tout ça, il y a une sorte de mise en abîme un peu quand même qu'on va essayer de comprendre. Alors, j'ai une toute première question, ou à moins que tu veuilles la poser à ta façon.
Mais non, t'es bien parti pour Thomas. La poser. Ah, c'est celle-là que tu veux poser?
Ouais, je veux que tu la poses à ta manière. On avait la même question, mais il a sa manière et j'ai la mienne.
Mais Sébastien Bravard, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour troquer les planches contre un tableau Velleda et une armée de CM1? Un pari perdu, une crise mystique?
Un peu tout ça. Et en même temps, j'ai pas troqué l'un pour autre chose. En fait, c'est surtout ça qui était important. Je voulais pas arrêter mon métier d'acteur, mais voilà, ce que je raconte au début d'Élémentaire, c'est que à la suite des attentats parisiens qui nous ont tous plus ou moins touchés de près, cette question du sens qu'on recroise comme ça au fil des années, qu'on redécouvre, m'est apparu très très clairement à ce moment-là. Et puis, c'était une période aussi où j'étais beaucoup en tournée. Et les tournées, c'est une période très particulière parce qu'en même temps, il y a beaucoup de vacuité parce que dans la journée, tout est axé sur la représentation du soir, en fait. Donc, il y a du temps. Et donc les questions se posent Et du coup, à ce moment-là, il était aussi question dans les médias beaucoup de... Moi, je me souviens que c'était quelque chose qui revenait assez fréquemment, cette idée que les terroristes étaient passés par l'école de la République. Donc, il y avait comme ça une mise en question aussi de cette école. Et voilà, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se construisait dans cette école, de voir ce qui se bâtit dans une salle de classe. Et donc, il y a eu cette envie un peu folle. Donc, voilà, de repasser le concours, de réviser en tournée dans les hôtels, réviser les maths, le français.
Mais c'était pas pour voir seulement un an, vous y êtes encore?
Alors, j'y suis plus actuellement, ouais. Mais j'ai quand même le rêve de l'équilibre entre les deux, je l'ai tenu 5 ans, en fait. Mais voilà, là, c'était plus, y a un moment où c'était plus tenable physiquement, et aussi, là, le spectacle a beaucoup, beaucoup tourné, donc il y avait un moment où c'était plus possible.
Ça a duré, oui.
Voilà, c'était, les deux n'étaient plus compatibles, mais ça a tenu pendant un moment. Après, c'était très compliqué aussi pour les productions. Ça voulait dire qu'ils faisaient en fonction de mes possibilités. Donc, dès qu'il y avait des vacances, hop, je partais en tournée, ou sinon, je jouais en région parisienne. Quoi.
Mais est-ce que quand vous avez commencé en fait à rentrer en fonction, ou passer même le concours, voilà, vous aviez déjà l'idée que ça pourrait être quelque chose d'intéressant?
Non, pas du tout.
C'est vraiment histoire de passer voir un autre monde.
Voilà, j'avais envie à ce moment-là aussi dans ma vie d'un chambardement, et j'avais envie de voir ce qui se construisait dans une école, et puis cette question de qu'on se pose hein, à des moments comme ça d'être utile, quoi. Et donc j'étais persuadé d'être utile sur un plateau de théâtre, mais j'avais envie d'autres choses à ce moment-là. Et je me suis dit que ce qui me paraissait le plus clair pour moi, c'était la salle de classe. Donc c'est à ce moment-là que j'ai... Mais après, non, après l'écriture est venue en fait assez vite en tournée, mais ce que je raconte dans Élémentaire, c'est que le début, voilà, j'avais la tête sous l'eau, quoi. Vraiment, il y a quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi, qui m'a complètement débordé. Et du coup, l'écriture m'a permis, j'ai eu l'impression de... Ça me permettait d'avoir un regard sur ce que j'étais en train de vivre, en fait. Je me souviens que sur les premières vacances, où on reprenait des répétitions pour un spectacle, je sais qu'en dans les loges et tout ça, je prenais des notes, j'écrivais des petites choses, mais c'était surtout pour prendre un peu de recul et sortir la tête de l'eau, justement.
Et Philippe Adrien, il vous dit j'aimerais bien savoir, d'habitude c'est les profs qui veulent devenir des comédiens, et il dit j'aimerais bien savoir comment ça se passe quand on veut devenir prof alors qu'on est comédien. Et moi du coup j'ai envie de vous demander, mais est-ce que c'est plus facile de devenir prof quand justement on est comédien?
Je sais pas les liens. Après, c'est compliqué cette question entre la classe et le plateau de théâtre, en fait. Il y a des choses qui m'ont servi, c'est sûr. Moi, je parle souvent de l'espace et de la scénographie de la classe. Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'emploie pas, en fait, dans une classe, mais venant de là où je venais, c'était quelque chose... Et c'était très important, en fait, la situation des tables, de l'endroit où on se place, nous, aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi au théâtre, trouver l'endroit le plus juste sur un plateau. Donc c'est des choses comme ça qui m'ont servi, je pense, j'ai l'impression.
Bye. sens pas.
Et voilà, donc c'était Richard Gottener, vous l'aimez tous, avec le Sampa. Donc à vous l'interview.
Bon, alors non, donc on est toujours avec Sébastien Bravard pour sa pièce élémentaire. Alors, tu as un peu parlé du métier. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous semble crucial pour être un bon enseignant ? Ou un enseignant épanoui, quelque chose dans ce style ?
Alors
dans
ça,
votre expérience.
C'est pas facile, mais... Moi, je me dis que ce qui est très important et ce que les enfants et les élèves ressentent, moi, j'ai l'impression qu'il faut être vraiment soi-même dans la classe. Alors, je vais pas donner... C'est élémentaire et surtout pas un spectacle sur la pédagogie. Oui. Non, c'est vraiment un ressenti, voilà, un témoignage. Mais je me dis que d'apporter ce qu'on est, dans la classe, j'ai l'impression que les élèves le ressentent très, très fortement. Et par exemple, pour moi, c'était très important d'amener la littérature qui me touchait et de l'amener dans la classe. Donc d'amener ce que je raconte, Suzanne Lebeau, Marine Diaye, c'était des autrices, là, ou même des auteurs, qui me touchaient. Et ça a été des moments très importants, ça, dans la vie de la classe, sur la construction du collectif, justement. Mais c'était moi, c'était pas dans les programmes, quoi. C'est des choses, donc j'ai l'impression que c'est ça qui peut aider.
C'est une forme de sincérité, en gros.
Oui, c'est ça, j'ai l'impression.
Et alors, là, c'est une question peut-être un peu plus comment dire, profonde, j'en sais rien si c'est le cas, mais la pièce, à mon sens, donne de la chair à ce qu'on entend généralement pas mal d'habitude. C'est-à-dire que le métier d'instit ou de professeur des écoles, comme on devrait dire maintenant, est difficile, mais il est beau. Et donc, quand on vous voit sur scène, on a souvent l'impression que vous êtes dans une espèce d'urgence, il faut gérer plein de choses en même temps.
Oui.
Bon, c'est quelque chose que j'ai vu personnellement avec les instituts qui m'entouraient. Et est-ce que c'était dû, en fait, c'est donc, de ce que j'ai compris, c'était pas dû forcément à vos multiples casquettes déjà, mais c'était un peu inhérent au métier. Et ou est-ce que ce sont les conditions, en fait, dans lesquelles vous êtes ? C'est-à-dire qu'on dit souvent que le métier est aussi difficile parce que il y a trop d'élèves, il y a un programme à terminer, parce qu'il y a des injonctions dans tous les sens. Qu'est-ce que vous avez une idée là-dessus ?
Il y a tout ça, c'est vraiment ce que vous dites. Il y a tout ça, tout ce cadre qui fait aussi qu'on est dans une urgence. Et puis, il y avait aussi, moi, ce que je raconte dans Élémentaire, c'est aussi la découverte d'un nouveau monde. Donc il y a aussi quelque chose qui déborde de partout, quoi. Il y a quelque chose que je connais pas du tout.
Ah oui, donc ça vous était spécifique, en fait.
Alors oui et non, parce qu'en même temps c'est aussi lié, en effet, même au bout de la fin de l'année, on est encore, le temps nous manque tout le temps. Il y a toujours cette idée de, on essaie de préparer des choses et c'est jamais exactement, jamais au bon endroit. Mmh. Et que donc, du coup, on se redit tout de suite après, le soir, qu'est-ce qu'on aurait dû ou qu'est-ce qu'on aurait pu modifier. Mmh. Et puis, quoi, voilà, il y a en effet quelque chose qui est tout le temps présent. Et donc, du coup, ce qui amène en effet ce côté un peu d'urgence que vous avez pu sentir, parce qu'il y a quelque chose qui, c'est, voilà, une casserole. Et on sent que ça va déborder, quoi, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut être prêt.
Non, mais vous avez raison d'insister sur le fait que c'est un ressenti, cette pièce. C'est-à-dire que c'est un ressenti de quelqu'un qui cherche du sens. Et du coup, moi, ce qui m'a semblé super intéressant, c'était que par rapport à... Je refais le lien avec cette question sur l'urgence. C'est que vous arrivez à trouver de la joie alors que vous êtes pressé de tous les côtés. C'est quand même assez... Il y a quelque chose d'assez bluffant, en fait, là-dedans.
C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est, en effet, comme vous dites, qui est pressé, donc qui est contraint. Quoi. Il y a quelque chose qui est... Et qui est quand même... qui prend énormément d'énergie quand même, quoi. Et puis il y a plein de choses qui vont pas, quoi, surtout quand on démarre. Et en même temps, il y a plein de petits moments, des petites bulles de champagne. Alors c'est pas du champagne souvent justement, mais il y a des petites bulles quand même. Il y a des choses qui pétillent et c'est ça qui aide. Et puis ce qui est très très beau et ce que j'ai voulu essayer de raconter dans Élémentaire, c'était assez important de garder cette idée du temps qui passe. En fait, ça démarre au premier jour de la rentrée, ça va jusqu'au dernier jour avant les vacances et c'était important. Moi j'ai trouvé ça très important dans la classe, c'est ce qui peut se construire sur le temps en fait aussi, parce que voilà, il y a cette urgence, il y a tout le temps des choses qu'on rate, et en même temps on sent qu'au fur et à mesure du temps il y a des choses qui se construisent, et c'est ça qui est très beau dans la vie de la classe en fait, c'est qu'est-ce qui se construit comment chaque individu, très différent les uns des autres, et comment d'un coup, ensemble, on arrive à construire quelque chose qui est à peu près beau.
Ça touche un truc que vous utilisez dans le spectacle qui est forcément, dont on se souvient. C'est où là vous utilisez le terme ogrelet. Je crois que c'est aussi parce que j'ai regardé, et une personne qui est instite m'en a parlé aussi, que c'est le titre d'une pièce de théâtre.
C'est ça.
Pour enfants. Et vous avez aimé quoi dans ce terme d'ogrelet pour désigner un peu? Alors bon, l'idée c'est que l'ogrelet, c'est un ogre, a priori il va pas à l'école, mais il a envie d'aller à l'école.
Il a envie, oui.
Mais je voudrais que vous défiliez un peu le... Enfin, débobiner le...
Oui, oui, oui. Bah c'est, en effet, ça vient vraiment de la pièce de Suzanne Le Beau, de ce personnage, cet ogrelet, qui vit avec sa mère et qui, lui, a un désir énorme d'aller à l'école, d'apprendre, en fait, de découvrir. Et puis, en même temps, vu que c'est un ogre, bah, on ne peut pas le mettre avec des enfants, quoi. Il y a une vraie difficulté sauf que lui, il ne le sait pas. Qu'il est ogrelet, et sa mère l'a maintenu dans une ignorance par rapport à ça, mais en même temps autour on se rend bien compte qu'il est pas comme les autres, quoi. Donc cette différence là et en même temps voilà, ça a été un moment, ça par exemple le travail de lecture et de jeu et tout ça autour, ça a été un moment très important dans la vie de la classe de cette
parce que vous pensez qu'ils s'y sont reconnus un peu dedans.
Moi je trouvais en fait qu'il y avait quelque chose dans la maladresse. C'est quand même à 10 ans, on est très maladroit. Et en même temps, il y avait aussi, malgré tout, ce désir d'apprendre. Ce désir de découvrir, je trouvais, dans les classes, beaucoup. Et c'est en ça que je trouvais qu'il ne ressemblait pas nécessairement à un ogrelet.
Oui.
Yeah.
Et voilà, c'était les Jackson 5 avec I Want You Back.
Oh, merci beaucoup. Voilà,
on est back. On est back.
Ah, on est back.
Vous toujours êtes back dans les bacs.
Toujours avec Sébastien. Et donc on est là pour la dernière, le dernier passage, le dernier.
Bah, on parle d'Élémentaire qui se joue donc au théâtre de Belleville. Voilà. Moi j'ai une petite question. En fait, tout le spectacle c'est un parallèle entre la classe et le théâtre en fait. Oui. Et oui, vous avez parlé de ce début de l'année et puis cette fin d'année. Donc il y a vraiment, et vous construisez véritablement la pédagogie au final comme une dramaturgie. Il y a une véritable dramaturgie. Et il y a un moment, moi, qui m'a, je me suis dit, mais bon, là, attends, d'accord, il y a ce parallèle magnifique. Donc en fait, quand il nous parle de la classe, il nous parle du théâtre. Alors, peut-être je délire, mais moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et je me suis dit, mais alors, le moment où il nous dit que, en fait, la séance est partie en vrille, que c'était absolument n'importe quoi sur les règles, le sport, là, un truc de fou. Et là, je me dis, mais donc, en fait, ça se trouve, il est en train de nous dire que parfois, quand un spectacle rate, c'est peut-être le meilleur moment de ce... C'est peut-être ce qui se passe de mieux pour un spectateur et c'est comme ça que lui il peut travailler et se faire son truc. Est-ce que je suis allé trop loin?
Peut-être un peu loin.
Je suis allé loin.
C'est très joli, mais c'est peut-être... Non, non, là c'était vraiment raconter ces moments où ça part dans tous les sens, quoi. Et là c'est la séance de PS où d'un coup l'extérieur aussi, quoi, tout rentre en... et ça part. Et en même temps, de ça naît un temps d'échange, un temps constructif, vraiment, quoi, où d'un coup, où moi-même, j'ai été très, très étonné, en fait, d'un coup, du regard que ces enfants de 10 ans pouvaient avoir eu sur ce qu'on venait de vivre, qui était quand même un gros n'importe quoi. Et donc, voilà. Après, je ne suis pas sûr que c'était complètement pour dire qu'un spectacle complètement raté...
Je ne sais pas. Non, ce n'est pas raté. Non. Je ne pense pas que c'est raté. C'est justement, vous venez de le dire, finalement, il y a du vivant qui a émergé dans quelque chose qui était... au départ, qui se voulait organiser, la répétition. On répète, oui, on répète, ça. On répète, et puis à un moment donné, le spectacle, il est vivant. Et du coup, bah, y a cette émergence d'un bien truc sûr. Bizarre qui n'était pas prévu et qui peut-être fait spectacle.
Quoi. C'est ça. Et puis, en tout cas, créer de la vie et puis de l'attention. Quoi, vraiment. Non, non, mais c'est une très belle idée, et moi je prends.
Bon, toi, t'as vu des trucs que moi, enfin, parce que t'es un homme de théâtre aussi, moi non. Mais moi, je sais que j'ai pas vu quelque chose, mais je sais que fondamentalement, un prof, il y est forcément confronté. C'est le fait que quand on est enseignant, déjà, il y a forcément un rapport politique à son métier, c'est-à-dire que la société regarde ce qui se passe. Parce que ça concerne beaucoup de gens, les parents, oui. Le futur des enfants. Ça concerne évidemment aussi la vision politique qu'on a de qu'est-ce que ça doit être un enfant qui est bien éduqué. Donc on sent qu'il y a une énorme pression. Hein. Régulièrement, en fait, il y a tout le temps soit des réformes, soit des attaques, soit des... En général, pour dire que les choses vont moins bien qu'avant, quand même. Déjà, c'est de votre point de vue. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, en regardant un peu dans le détail... On dit que ça va moins bien qu'avant depuis toujours. Et qu'on est en crise maintenant, mais j'ai encore vu une émission de 1985, le dernier coup, où ils étaient encore sur la question de « ça suffit l'éveil », parce qu'à l'époque ils disaient ça, « faut se réaxer sur le français et les maths », c'est une obsession déjà à l'époque. Et en fait, c'est les mêmes discours que maintenant. Est-ce que l'enfant, vous pouviez complètement vous en fiche de ça? Ça, c'est ma première question, j'en aurai une ensuite, après. Donc je vais d'abord vous laisser avec ça.
Se fiche de ces directives
Déjà, même entre collègues, est-ce que... Les directives, non, je sais, il y a un programme,
etc. Ça, on sait qu'on doit, malgré tout.
Mais le fait que de ressentir qu'il y a une espèce d'attente, et puis de dire, bon, en fait, on est baladé comme ça, mais depuis toujours, et donc on peut quelque part un peu s'en fiche, ou est-ce qu'en gros... Il y a une forme de stress à cause de ça, c'est très différent.
Oui, il y a un petit peu. Alors, moi, c'est très particulier, parce que j'ai commencé très tard et j'ai déboulé là-dedans sans du tout connaître cet univers-là. Donc, il y avait ce que je disais tout à l'heure, cette découverte, quoi. C'était vraiment cette idée de découverte. Après, C'est à la fois exactement ce que vous dites, c'est qu'il y a des directives, on a l'impression que c'est les mêmes qui se répètent, ce truc des fondamentaux et tout ça, et qu'on sent bien dans la vie de la classe que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que c'est beaucoup plus intéressant de, aussi d'aller chercher dans les endroits qu'on voit moins, justement. Et en même temps, toutes ces obligations, un peu, y a aussi une vraie liberté. Alors, il y a une vraie solitude, je trouve, dans la salle de classe, même si on arrive avec l'équipe enseignante à construire des choses, mais on est quand même très... Quoi. Moi, je sais que les premiers jours, je me trouvais très, très seul dans cette classe et je me suis demandé si j'allais rester. Et en même temps, il y a aussi une forme de liberté là-dedans. Alors, j'ai pas été trop... Je me suis pas senti trop brimé par le poids de l'institution et tout ça, et je me suis dit qu'il fallait essayer, expérimenter. Alors bien sûr qu'on a des contraintes, ouais, sur le programme et tout ça, mais il y avait un espace de liberté, je trouvais, quand même.
Et la deuxième partie, oui, de ma question, d'une certaine manière, parce qu'elle est liée à cette question de l'environnement social, politique et médiatique autour de... C'est que finalement, il y a aussi... On voit un petit peu quand même que dans votre classe, je ne me trompe pas, c'était une REP que vous aviez la première.
Ouais, l'école venait tout juste sortir de REP. Mais on est revenu en REP tout de suite après.
Ça veut dire éducation prioritaire, le R c'est quoi déjà?
C'est ça, réseau d'éducation prioritaire.
Donc ça veut dire qu'il y a éventuellement plutôt des difficultés dans un établissement.
Oui, c'est une école de banlieue là.
Mais je dirais que c'est le seul aspect un peu politique du spectacle, parce qu'on sait que l'école, on dit toujours c'est émancipateur, etc., mais on sait qu'il y a l'autre versant un peu plus noir, un peu plus obscur, qui est que c'est aussi là que se fait un peu l'espèce de tri social. Et les REP, quelque part, nous font comprendre que tous les établissements ne sont pas pareils. Enfin, c'est écrit déjà directement comme ça. Et donc finalement, il n'y a pas vraiment en fait ces aspects-là dans votre pièce. Alors c'est sûrement un choix, mais est-ce que ça vous parlait, ces aspects-là, ou pas vraiment, quand vous étiez enseignant? Est-ce que c'était quelque chose qui vous préoccupait? Et pourquoi vous ne l'avez pas inséré dans le spectacle tant que ça?
Alors, je ne vois pas exactement quoi. Il y a eu un choix. J'ai passé le concours dans l'Académie de Créteil. C'était, ouais, un choix.
Ah oui. Je parle dans le spectacle.
Oui, je sais bien. Ouais. Mais du coup, de raconter la vie de cette école, c'était la vie de juif, c'était juste dire, alors je sais pas si c'est ça va, mais c'était juste quand même de dire, il y a quand même dans l'air aussi cette chose de sur justement les enfants, comment dire, de banlieue, etc., ouais, et tout ça, on sent qu'il y a quand même une méfiance, une, ouais, défiance, et que c'était juste, alors c'est pas de la politique, mais c'en est, c'est vraiment, parce que la salle de classe, c'est très politique, je trouve, justement, sur la construction du vivre ensemble, et de raconter ces petits moments de vie de ces enfants qui s'appellent Ousmane. J'ai pris que des prénoms d'élèves de ma classe, hein, Fanta, etc. Ça raconte, pour moi, ça raconte beaucoup. Et ça raconte beaucoup sur un collectif qui se construit.
Je suis tout à fait d'accord. J'ai perçu l'aspect politique de façon énorme. Quoi.
Pas énorme. Ah, si. Je l'ai perçu, mais c'était pas non plus...
Dès le début, Sébastien, vous dites, voilà, il y a les attentats.
C'est ça.
Et je m'inscris au concours.
Oui.
Donc, je veux dire, ça donne toute la couleur du spectacle pour la suite. Et effectivement, les noms de vos c'est élèves, ça, c'est politique. Le fait qu'on va être obligé de couper, mais voilà, je polémiquerai pas plus.
Non, je vois ce que vous
dites. Mais je pense que oui, c'est un spectacle très politique, mais comme vous l'avez dit, c'est un ressenti.
Voilà.
Donc c'est individuel.
Donc c'est exactement. Et voilà. C'est vraiment ça.
Non, ok.
Non mais en même temps j'entends très bien, je comprends quoi, c'est pas y a pas une dénonciation d'une
oui.
d'une institution et tout ça quoi, je voulais pas de ça, je voulais vraiment
voilà
tout à fait.
D'accord. Et moi j'ai une dernière question. Oui. Vous êtes habillé comme quand vous êtes sur scène là
en ce moment?
Ouais, non.
Oui. À peu près.
Ah ouais, mais c'est un truc de fou ça. C'est la première fois que je vois un acteur dans la vie en costume.
Si, bah c'était l'idée de que le costume, ça soit mon costume quoi.
Mais c'est magnifique. C'est
l'école.
C'est super, j'adore.
Bon. Donc, on va donc bientôt s'arrêter sur cette interview.
D'accord.
Donc vous étiez. Là, vous êtes au théâtre de Belleville.
Oui.
Vous avez d'autres dates prévues qu'on va pas identifier ?
La tournée reprend un peu. Le spectacle a beaucoup tourné la saison dernière, ouais. En fait. Donc là, je sais qu'il y a Charleville-Mézières. Je sais qu'il y a du coup, il y a quelques dates aussi qui se dessinent pour la saison prochaine en bon. Tournée, quoi.
Bon, on voilà, en parlera sur notre semaine. Article en ligne.
D'accord.
Les gens pourront venir super. Vous voir.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Beaucoup. Bonne soirée.
Et oui, on passe à la suite sans transition, hein, on va pas mettre de musique, on va pas s'amuser. Hein. Donc maintenant, c'est le moment des chroniques. Hein.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Alors, les chroniques aujourd'hui, on va parler tout d'abord de pistes. Ah, donc c'est une pièce écrite et mise en scène de Panda Diouf avec Nanyadji Kagara qui se joue jusqu'au 29 mars au Théâtre 13. Donc Alice, qu'est-ce que tu nous en dis ? Alice, c'est vous êtes prête ? Bah oui, c'est vous Alice.
Ah bon ?
Mais si, c'est vous, enfin.
Allez Alice.
Ok, il n'y a pas de musique.
Non,
c'est ce que je vais le lancer.
Alors, que Guigui,
attends, je vais balancer la petite musique, tu vas voir.
Bah oui,
une petite virgule.
Bah oui, quand même.
Voilà, on va. Ah bah non, tu vois, c'est pas la virgule. Non, c'est pas la virgule.
Mais c'est de toute façon, c'était une petite introduction musicale et c'est très bien pour aller sur la piste. Sur la piste.
De danse.
Voilà, allez, vas-y. Allez, Alice.
À toi, Alice.
Bon, bah, je me lance. Alors, on est allé voir avec Julien le spectacle Piste de l'autrice metteuse en scène Panda Diouf au Théâtre 13. C'est une autofiction racontée par la comédienne qui s'appelle Nanyadji Kagara. On suit son chemin de vie en piste de son enfance à l'âge adulte avec toutes les prises de conscience liées à ses appartenances à une minorité. Naître en France, être nourrisson en couveuse, petite fille à l'école, puis femme noire en France, depuis sa naissance jusqu'à la découverte de son pays d'origine, la Namibie, bien plus tard. Il en faut du courage pour se plonger dans son histoire personnelle et faire entendre l'histoire si peu connue de la Namibie, le pays de ses origines. Elle raconte sa solitude, l'exclusion de la communauté existante, là où les Noirs ne font pas partie du paysage d'un village français isolé. Elle raconte la découverte de son pays d'origine, plus tard la Namibie, et elle traverse son histoire, sa géographie. Elle évoque le sombre passé colonial et la résistance d'une partie de son peuple, les Herero et les Nama. Le massacre systématique par les Allemands de son peuple, un massacre qualifié de premier génocide qui s'est déroulé entre 1875 et 1915. Ce qu'elle ressent résonne à ce que j'ai connu enfant en chemin inverse au Tchad, mon pays de naissance. Je ressentais, petite fille blanche, à contre-courant une colère sourde nourrie par le constat impuissant de la condition si inégalitaire entre les hommes et les femmes, les noirs et les blancs. Selon sa couleur de peau, les portes s'ouvraient différemment en termes de soins, d'accès aux connaissances, aux choix possibles vecteurs d'émancipation. Lorsque les dés sont jetés, le destin semble ne pas nous appartenir. Que peut-on faire d'autre qu'attendre d'être en pleine possession de ses droits pour s'engager contre toutes ces formes de violence. En attendant, prendre sa part de solitude, chercher sa place, partir en chemin et le théâtre s'ouvre. Le théâtre est le texte de l'autrice Panda Diouf. C'est un texte très fort, singulier. À la lecture du communiqué de presse, j'apprends qu'il est lauréat des comités lecture de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Meilleure fiction radiophonique aussi, d'Allemagne en 2022. On peut le lire aux éditions Quartet. C'est donc à l'origine une commande de la SACD destinée à la lecture publique. C'est vrai que je me suis laissée emporter par ce récit. Ce texte se suffit à lui-même de mon point de vue. Je n'ai pas vraiment su apprécier la portée de ce seul en scène pour la scène, bien que la comédienne joue très très bien avec force et justesse. Sur le fond, le sujet du spectacle fait écho au contexte international actuel, avec ses volontés impérialistes toutes puissantes. Et le théâtre devient ce lieu de résistance. Je vous encourage vraiment à aller écouter ce texte, très beau, très fort, et à suivre la piste. Et toi, Julien ?
Alors, un spectacle plutôt intéressant, que je trouve idéal pour emmener un groupe de lycéens et de lycéennes. Vraiment, là-dessus, sur le fait de, sur le rythme, sur la façon de mélanger le privé et l'historique, on a quelque chose de très bien fait. Tu révèles que c'était une fiction radiophonique. Je trouve que le décor est un peu illustratif et que finalement, de mon point de vue là, de spectateur et plus d'enseignant, je me dis que ça aurait pu rester radiophonique. Que sur scène, personnellement, je trouve que c'est un fait un peu déjà vu. Alors une nuance quand même, la scène finale, que je ne raconterai pas, mais qui à elle seule vaut le spectacle, parce que c'est d'une force terrible. La douleur de ce génocide des Herero et des Nama est dans la salle. On a vraiment quelque chose où on réussit à nous partager ce moment d'oppression, justement ne pas être dans quelque chose qui fait que passer. On est là avec ses morts et ça, c'est extrêmement fort.
J'ai trop envie de raconter, mais je ne le ferai pas.
Non, non, tu ne le feras pas. Alors ensuite, nous allons parler de Zonard. Alors c'est de la danse contemporaine avec une chorégraphie d'Anne-Charlotte Zuner et interprétée par elle-même et sa complice Amandine Dussard. C'était au théâtre de la Croisée des Chemins. Enfin, c'est toujours et c'est jusqu'au 3 mai. Alors on y allait moi-même, Guigui, et avec Thomas. Donc Thomas. Éruct.
Oui, j'avais dit non, je n'écrirai pas. Et finalement, j'ai écrit quelque chose. Et parce que je pense qu'il faut discerner l'œuvre, non pas de l'artiste, mais du théâtre où il est présenté. Où elle est présentée, cette œuvre. Non pas que le théâtre de la Croisée des Chemins soit un théâtre indigne, bien au contraire, il s'agit d'un théâtre de poche, comme il y en a tant à Paris. Un tout petit plateau, bas de plafond, un pilier au milieu qui gâche la vue, une jauge rikiki. Et sa particularité, c'est qu'il est au milieu d'une cité, en bas des tours, le trouver, c'est déjà une aventure. Et ça, c'est chouette. Chouette pour un théâtre populaire, accessible, de proximité. Je trouve que c'est un théâtre qui est important dans son existence. Non, le souci là, c'est que parfois il y a adéquation entre le projet présenté et l'endroit où il est présenté. Et parfois non. Et là, pas du tout. Il y a des théâtres très bourgeois qui ne conviennent pas à des spectacles politiques et qui dénonceraient l'emprise de la bourgeoisie. Il y a des théâtres de patronage, salles des fêtes de paroisse qui conviennent à des spectacles bon enfant, sans exigence artistique. Il y a des théâtres comme des cathédrales qui ne peuvent accueillir que des spectacles œuvres d'art. Et bien là, Zonard, ce spectacle, lorsque vous voyez les vidéos tournées en extérieur, ça donne envie de le voir. Mais ici, dans cet écrin, ce spectacle de danse sur 20 mètres carrés devient une gageure. L'inadéquation fait ici beaucoup de mal à ce spectacle qui se tient, où les interprètes démontrent des talents, non pas seulement en danse, mais en comédie, en clown notamment, même s'il n'y a aucun nez rouge. Et c'est bien là toute la finesse de la proposition qui est millimétrée, comme doit l'être une comédie, usant d'onomatopées très expressives, de temps d'attente, de chute, de musique, de danse, on l'a dit, un peu comme une bande démo qui démontrerait l'étendue des prouesses dont sont capables les interprètes. Le tout adossé à un arbre de pacotille en fond de scène, signant ici la référence à En attendant Godot de Beckett. Et pour ceux qui n'auraient pas saisi, c'est Godu que les deux protagonistes semblent apercevoir dans le public. Alors forcément, avec une telle référence, ça parle de solitude, de couple, d'amitié, du sens de la vie quand on attend la mort, de déchéance, tout ça, tout ça. Et surtout, sans chichi, la salle remplie d'enfants était aux anges. Mais voilà, ce spectacle sur une autre scène pourrait prendre de l'ampleur, les silences occuperaient l'espace, il y aurait quelque chose qui se pose et qui permettrait au poétique de se déployer. Surtout, il y aurait moins d'urgence et plus de contemplation. Néanmoins, nous n'avons pas le choix, c'est là qu'il passe et c'est là qu'il faut aller le voir tous les samedis à 15h. Et toi, Guigui, qu'est-ce que tu en as pensé?
J'étais avec toi, bon, ben oui. On en a un petit peu discuté. Oui, alors effectivement, bon, ben moi j'étais derrière le poteau, hein, donc tant pis.
Voilà.
Alors là, quand même, la gentillesse de la danseuse, c'était d'un peu, j'ai l'impression de regarder, j'ai l'impression d'être considéré, parce qu'elle regardait un petit peu pour voir si, enfin, ce qui se passait derrière le poteau. Et je reprends ce que tu disais, donc, ce sont des clowns et tout ça. Parce qu'au départ, on a eu très peur, tu as eu très peur quand tu as vu qu'il y avait des enfants.
Ah, oui, j'ai très peur.
Tu as peur des enfants.
J'ai peur des enfants.
Et donc on s'est mis plus loin.
C'est des ogrelets.
Voilà, des ogrelets. Et on s'est mis vraiment très très loin des enfants. Et puis finalement, en fait, c'était quand même un petit ravissement, parce qu'ils rigolaient comme des malades, pour notamment une petite fille derrière nous, là, qui était à fond sur ces clowns qui tombent, qui font des trucs et tout ça. Et donc, en fait, moi, je recommanderais carrément d'y aller avec des enfants. Parce que je pense que quand on voit le truc sur le site, où on parle de déconstruction, de la danse contemporaine ou je sais pas quoi, on n'imagine pas une seconde, parce qu'après, c'est avec un côté burlesque, on n'imagine pas une seconde qu'on va un peu rigoler. Et en fait, c'est carrément rigolo. Donc, allez-y avec vos enfants, allez vous amuser, allez rigoler un coup et puis déconstruire la danse, je sais pas quoi.
C'est le samedi à 15h, c'est vraiment un horaire pour les enfants.
Exactement. Et puis c'est, en plus moi j'ai pas vu le temps passer, c'était très agréable. Donc voilà, allez-y. Alors donc c'est où déjà, hein? C'est au théâtre.
Au théâtre de la Croisée des Chemins.
Exactement. Quel et c'est jusqu'au 3 mai. Et c'est une fois par semaine, donc vous pouvez même y retourner. Voilà. Donc, on va continuer avec Golem. Donc, c'est une pièce écrite par Amos Gitaille, et Marie-Josée Sanselme. C'est mise en scène par Amos Gitaille. C'est au Théâtre de la Colline et c'est jusqu'au 3 avril. Alors, Julien, toi qui aimes la colline.
Oui, qui continue dans le léger après le génocide des Héros et des Namas. Là, c'est les pogroms de l'Europe centrale. Alors, on sent un spectacle qui a envie de cocher toutes les cases. C'est bien calibré, c'est fait pour mettre sur les scènes, les grosses scènes européennes. Il y a un public qui est content de se sentir progressiste parce qu'on lui dit quand même que les pogroms, c'est mal. Et qu'à la fin, on nous explique que les identités métissées, c'est bien, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ? En fait, on a un spectacle qui est multilingue. Alors, pas parce que ça aurait du sens au vu de l'histoire, non, mais parce qu'en fait, on veut un casting. Donc, on a les langues du casting. Bon. Parce qu'en fait, c'est international. C'est fait pour être international, pour être bien vendu à ceux qui font les programmations. C'est extrêmement esthétisant. On a Amos Gitaille qui reste un réalisateur et il met en scène, pas tellement, mais il réalise. Le film lui-même prend beaucoup de place. Alors les comédiens et comédiennes, les chanteurs, chanteuses sont très justes, mais au final, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de calibré, c'est une impression de comédie musicale anglo-saxonne. C'est un peu... Alors je suis jamais allé à Broadway, mais c'est un peu l'image que dans les séries télé on peut voir de Broadway. C'est très manichéen et voilà. Alors par moment ça cherche à faire rire, mais ça cherche à faire rire avec quelque chose qui doit pouvoir se traduire dans toutes les langues de là où ça va passer, donc ça vole pas très haut. Alors quand même une grosse gêne, c'est ce moment où on a à la fois une scène dans le texte terrible de pogrom et des femmes très peu vêtues, dans des poses lascives, en train de se garnir de glaise. Franchement, je vois pas l'intérêt.
Avoue que tu étais très attentif à ce passage.
Non, j'étais vraiment très gêné par ce moment. Franchement, il y avait quelque chose qui n'allait pas.
En tout cas, on était allé voir la pièce de Amos Gitaille, House. Je sais pas si tu te souviens, Guigui, tu t'étais endormi, lamentablement.
Bon, alors là, c'est vous êtes obligé de balancer. Hein. Vous avez quand même balancé de la glace aussi sur le corps.
Ça s'appelle une balle perdue.
Non, c'est lamentable. Lamentable. Bon, écoutez, vous avez...
Mais j'ai pas fini.
Ah, toi, t'as pas fini?
Mais non.
Ah bah, tu vas continuer à me pourrir. Ok, vas-y.
Donc, ce spectacle... Bon, alors... C'est vrai que je ne suis pas vraiment rentrée dedans. C'était très bien léché, très, très intellectuel. Ils avaient tous des têtes de premier de la classe. Bon, désolée, je sais que je suis entourée de profs, mais moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans.
Premier de la classe?
Oui, en plus, le premier
Merci.
De la classe, à part Guigui.
Moi, je ne me suis pas pris de balle.
Non, mais arrêtez. Hein.
Bon, en tout cas, bizarrement, je ne suis pas entrée dans ce spectacle, mais ça m'a fait l'effet quand même quand je regarde, il parle de choses sinistres, de massacres, etc. Quand j'écoute le journal télévisé qui annonce tout un tas d'horreurs, je reste assez froide à l'écoute de ces messages qui sont parfois un peu comme qui font l'effet un peu obscène dans mon imagination. Et là, quand j'ai assisté à cette scène théâtrale, où on sait qu'Amos Gitai, c'est un réalisateur de documentaires, il y a un écran qui comment dire ça, qui fait écran à la réalité pour lui donner une forme sensible. Et ben bizarrement, j'ai été touchée en fait. J'ai été touchée par ces, surtout par la scène où il raconte l'histoire d'un massacre et en fait la voix des comédiennes est relayée par des langues différentes. Donc le massacre est raconté en arabe, en espagnol, enfin tout un tas de langues, c'est polyglotte, et ça fait vraiment l'effet d'une humanisation, d'une reprise de, enfin comme si l'homme est affreux, enfin ça on le sait déjà.
Mais est-ce que c'est pas justement la fonction du théâtre de faire en sorte qu'on s'émeuve à un moment donné, alors que justement face aux infos on peut pas s'étonner, on est dans le flux d'informations, c'est impossible. Tu vois, moi j'ai l'impression
je trouvais que ça ne fonctionnait pas.
Oui, ah, mais...
Bah, on n'a pas eu la même impression. En tout cas, moi, ça m'a touchée. Et après, c'est vrai que c'était assez froid. C'était, oui, effectivement. Alors, la musique, pour moi, je l'ai trouvée plutôt belle. Pour moi, je ne l'ai pas senti. Enfin, il y avait du chant lyrique. C'était avec une harpe magnifique. Bon voilà, après c'était assez majestueux, mais bon après c'est vrai que c'est un grand réalisateur, très connu. Il y avait ce côté voilà très lisse, très attendu. Mais allez le voir quand même, allez sur la colline. En plus monsieur Wajdi Mawad va bientôt partir, alors profitez de sa
présence.
Mieux. Ah, non, bon, allez à la colline,
voir pourquoi pas Wajdi Mawad, mais pas pour voir ça.
Bon, arrêtez avec vos grosses voix, maintenant c'est au tour d'Hélène.
De soprano.
Voilà, donc, Hélène. Je vais te laisser la parole. Vas-y.
Ah mais non.
Ah
oui,
bah de quoi.
Très bien, merci. Je vais m'adonner à un exercice d'équilibriste, cher ami. Une chronique en mode fil de feriste, chers amis. Je vais parler en fait d'une pièce dont le souvenir est fort lointain, qui date d'un soir de novembre au Théâtre 71 à Malakoff, novembre. Mais... la pièce aura lieu au Tandem Scène Nationale le 25 et 26 mars. Donc, selon ce que je vais dire, on va se positionner sur cette date. Effectivement, parce qu'en fait, la traversée de cette pièce m'a laissé presque une sensation de lassitude. Je pose le contexte, hein, afin que l'auditeur puisse aborder ce qui va suivre en connaissance de cause, l'injustice que le temps qui passe impose à la mémoire. Donc ma mémoire, elle sera morcelée, hein, elle sera un peu précaire. Mais cela est intéressant, j'ai décidé que c'était intéressant. Cela va interroger la notion de dépôt. Que reste-t-il de l'instant d'une représentation? Vaste question. Mais cela peut même faire un effet miroir avec le propos même de la pièce. En effet, sur le chemin des glaces, la pièce mise en scène par Bruno Gélin s'empare, 50 ans plus tard, du texte donc éponyme du cinéaste Werner Herzog. Et la question qui sous-tend ce récit autobiographique, eh bien, c'est le temps. Celui qui, pour peu que l'on s'y adonne, nous fait pénétrer dans la métaphysique de la vie. Vaste programme. 50 ans après long dépôt, le metteur en scène entraîne ses deux comédiens, Clément Bertani et Guilhem Laugereau, dans les pas du cinéaste, à savoir une pure folie. Une marche de 900 km entre Munich et Paris. Cette marche, à l'époque, en 1974, Herzog, il l'entreprend pourquoi? Pour rejoindre la grande historienne et son amie, historienne du cinéma, pardon, Lotte Eisner, qui est mourante et qui le réclame. Dès qu'il l'apprend, il quitte son appartement munichois et se met en route vers Paris. Cette marche, en fait, c'est une manière de défier la mort. Quand il arrive à son chevet, Eisner est toujours vivante. Cette marche conjuratoire, c'est donc l'écrin par lequel est passé le processus de création, et son texte en est également la base de l'adaptation théâtrale. Mais peut-on incarner au plateau ce temps si intime d'une parole vécue deux fois ? Avec la parole originelle du cinéaste mystique et la parole qui naît de la traversée de notre équipée théâtrale. Qui parle ? Herzog ou Gélin ? Qui prend corps vraiment ? Qui vois-je au plateau ? En fait, j'étais assez troublée et un peu en demi-teinte en fait, parce que j'ai perçu l'effort de donner à voir cet indicible, mais je n'arrive pas à situer vraiment ce qui fait théâtre, et donc ce qui pourrait me permettre, à ma place de spectatrix, à entrer aussi en moi dans l'écrin d'une marche poétique, une marche immobile. Au lieu de ça, je suis confrontée à une marche qui se rejoue, le comédien parcourant inlassablement un tapis de marche, comme on voit dans les salles de sport, mais sans la saveur de la trace réelle, ce fameux dépôt dont il était question au début, et qui, selon le moi, donnerait une saveur si essentielle de cette pièce démesurée. Cette pièce qui est en elle-même, en fait, le texte est en lui-même un acte poétique et théâtral. Donc, même si nous permettent d'entendre ce texte d'Herzog et découvrir ce jusqu'au boutisme est salvateur en ces temps où nos horizons rétrécissent, je crois qu'au-delà de rejouer la marche, les intempéries, la brume et l'atmosphère obscure par des projections vidéo, nous aurions aimé recevoir le substrat poétique de cette démarche folle, son élan vers la vie. Lisez Werner Herzog.
Oui, absolument. Et il y a son bouquin là, de ses mémoires qui est sorti, qui est magnifique. Oui, tu peux parler.
Hein. Bah oui, non mais merci.
Il est superbe. Bon, écoutez, merci à tous. Hein, là, on va.
On n'a pas le temps de faire un petit coup de cœur.
Bah écoute, tu peux faire un coup de cœur comme tu veux, mais bien sûr.
Si c'est Wajdi Wahmad, non.
Non, hein. C'est pas Wajdi Wahmad. Oui,
bon, non, en fait, on est allé voir, mais partir. Un peu hors piste, avec Julien, un super spectacle qui s'appelle Polydegen, de la compagnie La Pendue, des marionnettistes qui sortent un polichinelle et qui sont complètement géniaux. Qu'est-ce que tu en as pensé?
C'est formidable, faut y aller, c'est drôle.
Retenez
on
bien,
était avec des enfants
Polydegen.
Qui étaient hilares et on s'ennuyait pas. C'est quand même... Un bon équilibre. Franchement, ça vaut le coup.
Ouais, c'était notre coup de cœur.
Bon, bah écoutez, voilà, c'est votre coup de cœur. Vous avez d'autres coups de cœur? Vous avez des choses? Non? Bon, écoutez.
Il y a Exit Above à aller voir à la MC93 la semaine prochaine. Alors.
D'accord.
Foncez.
Sébastien Bravard, un coup de cœur?
En ce moment, j'ai pas le temps d'aller.
Oui, bah, je vous demande, vous n'avez pas de micro? Non, c'est lamentable.
En tout cas, vous avez un cœur.
Bon, voilà. Alors attendez, on va lancer ça. Donc, merci à tous. Hein. On a parlé de quoi aujourd'hui? On a accueilli Sébastien Bravard hein, pour son seul en scène élémentaire.
Merci.
Merci beaucoup. C'est jusqu'au 30 mars au Théâtre de Belleville. Pour les chroniques, on a parlé de Piste. Donc, c'est une pièce écrite et mise en scène par Panda Diouf. C'est jusqu'au 29 mars hein, au Théâtre 13.
Ce sera mon anniversaire.
Ce sera son anniversaire à Alice. Donc voilà, allez-y. Hein. Ensuite, on a parlé de Zonard. C'est de la danse contemporaine, une chorégraphie d'Anne-Charlotte Zuner. C'est interprété par Anne-Charlotte Zuner et Amandine Dussard. C'est au Théâtre de la Croisée des Chemins. C'est jusqu'au 3 mai, donc c'est une fois par semaine, le samedi, hein, allez-y. Ensuite, on a parlé de Golem, hein, c'est une pièce écrite par Amos Guitaille et Marie-Josée Sanselme. Mise en scène d'Amos Guitaille, c'est au Théâtre de la Colline, c'est jusqu'au 3 avril. Et enfin, nous avons parlé du gigantesque Werner Herzog, donc c'est un texte, hein, c'est son bouquin, sur le chemin des glaces qui a été adapté au théâtre par, et mis en scène par Bruno Gesselin. Et c'est dans le cadre de la compagnie La Grande Mêlée. Et les prochaines dates sont au Tandem, scène nationale de Arras-Douai, le 25 et le 26 mars. Donc voilà, je vous remercie. Cette émission a été préparée par Michel Carton, présentée par, par moi-même, hein, Guigui, avec la complicité d'Alice Valla, Thomas Adam-Garnin, Hélène Belver. Et j'ai dit tout le monde là, je me rappelle.
Et Julien,
t'as oublié Julien.
Mais oui, pourtant, mais quelle voix en plus, voilà. Pour la prochaine émission, voilà. Ce sera le 21 avril. Et puis d'ici là,
portez-vous
bien.
Allez au théâtre.
Voilà.
Et vous comme il n'y a eu que deux morceaux cette fois-ci, restez pour écouter une équipe, pour écouter une émission musicale.
Oui, bonne soirée.
Hasta luego. Bonne soirée. Au revoir.
In another battlefield, that my love's not sincere, I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart. Yeah. Thank you.